Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Frédéric. L'association Picardie Faune Sauvage, centre de soins à Boissy-Frénois, m'a invité à assister à un relâcher d'animaux sauvages dans le parc du château de Chantilly. L'occasion de retrouver Christophe, le président de l'association, et Salomé, sa secrétaire. Ils nous présentent l'association et les animaux qui vont être relâchés, ainsi que les besoins de l'association pour continuer à faire vivre le centre de soins.
Après, là, aujourd'hui, on va relâcher des hérissons. Les hérissons, malheureusement, il n'y a plus de saison. On en a toute l'année, sans discontinuer. Au hiver, c'est quasiment permanent. Et on a quasiment... Ça fait deux hivers où on a une cinquantaine de hérissons qui attendent de passer l'hiver chez nous, plus tous ceux qu'on récupère tout au long de l'année. Donc ça commence à faire des quantités vraiment impressionnantes.
Parce qu'ils ne trouvent plus d'endroit pour se poser
Il n'y a plus d'endroit, ils ont plein de soucis avec les routes, plein de soucis avec les jardins, plein de soucis avec les produits phyto, parce qu'on a eu aussi pas mal de cas cette année, ce qui m'a un petit peu surpris d'empoisonnement. Alors pas volontaire, mais avec des produits qui passent pas. Donc traitement charbon et vitamine K, on arrive à en soulever quelques-uns, ça dépend de ce qu'ils ont ingéré. Mais par exemple les produits anti-limaces.
D'accord. Ah ouais.
C'est tout bête, mais ils sont pas tous top pour le reste de la faune. Ça ne tue pas que les limaces.
Oui. Ceux qui mangent les limaces, malheureusement.
Ceux qui mangent les limaces, après, il y a probablement des hérissons qui meurent de ça, et ceux qui mangent les hérissons derrière, etc. etc. La chaîne alimentaire. Il n'y a pas de produit qui n'a pas d'impact.
Donc, un conseil à donner aux gens qui vont écouter le reportage ou qui vont lire mes collègues, qu'est-ce qu'on fait avec les hérissons ?
Alors, les hérissons, il faut les protéger, ça c'est sûr. L'hiver, si on peut laisser une petite coupelle de nourriture, type croquette à chat, c'est très bien. Bon, peut-être pas toute l'année, parce que le but, c'est pas non plus de les habituer et de les nourrir en permanence. Pareil, éviter de les enfermer. Faut pas l'enfermer dans son jardin, parce qu'il n'aura pas forcément toute la nourriture dont il a besoin en l'enfermant. Par contre, si vous pouvez faire un petit trou dans le grillage pour qu'il puisse se balader de jardin en jardin, ça, c'est une bonne option aussi. Parce qu'on a aussi quelques cas où les hérissons, en essayant de passer de jardin en jardin, se retrouvent coincés. Alors si on les voit tout de suite, ok, c'est pas grave, on coupe le grillage, on le tord, on le sort. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas cette chance et qu'on retrouve mort coincé. Donc après, bien sûr, les véhicules, parce qu'ils ne regardent pas à gauche et à droite en traversant la route. Donc faire attention le soir ou la nuit ou tôt le matin. Mais ouais, faut faire vraiment attention, c'est une espèce qui est protégée, c'est une espèce qui vit dans nos jardins ou vraiment très proche de l'homme de plus en plus parce qu'il s'adapte. Mais il faut qu'on y fasse attention si on ne veut pas la perdre. Parce que la population de hérissons, elle est en chute libre. Presque une disparition programmée si on fait rien.
Ah oui.
Donc ce serait bien qu'on évite d'en arriver là.
Oui. Surtout qu'ils sont quand même protégés depuis plusieurs années déjà.
Oui, c'est une espèce protégée depuis longtemps, donc on a l'obligation d'y faire attention. Donc voilà, ce serait bien qu'on y fasse attention. Mais malheureusement, c'est de plus en plus compliqué. Ils ont de moins en moins de place, ils ont de moins en moins d'endroits. Il y a des gens qui s'en occupent, qui font une petite cabane au fond du jardin, un petit peu de nourrissage. L'autre problème qu'on a malheureusement maintenant chaque année, c'est les périodes de sécheresse. Quand vous vous retrouvez avec trois semaines sans gouttes de pluie, eux aussi, ils ont des problèmes pour trouver de l'eau. Donc si on peut, au fond du jardin, avoir une coupelle pas trop profonde non plus, pour pas qu'ils se noient, parce que c'est toujours pareil. Ça peut être un autre souci, mais avec de l'eau régulièrement, c'est aussi pour ça qu'on essaye sur des endroits comme cela. Là, les risques sont limités, les jardins sont immenses, il y a de l'eau, il y a de la verdure, il y a aussi bien des parties boisées que des parties un petit peu dégagées. Enfin, là, concrètement, ils ont toute leur chance ici. Donc on essaye vraiment de favoriser des sites de relâcher comme le château de Chantilly, comme on a fait déjà aussi au jardin, au potager des Princes, ou comme on a fait à l'abbaye de Chaly.
Comment est né le partenariat entre vous et le château de Chantilly ?
Alors, comment il est né ? Il est né avec ce que j'ai au point, en fait. Le point de départ, ils ne nous ont pas contactés par rapport au centre de soins, mais parce qu'ils voulaient avoir une démarche écologique par rapport à l'implantation des pigeons suite au Covid. Et dans la démarche la plus écologique qui soit, de mon point de vue en tout cas, il y a l'effarouchement avec des rapaces. Comme ça, il n'y a pas de, Il y a très peu de morts parce qu'il n'y a pas beaucoup de prises. Mais par contre, la présence du rapace sur site a tendance à pas empêcher, mais limiter l'implantation des pigeons sur le château. Et donc, au départ, c'est comme ça. Après, ils ont appris assez rapidement, parce qu'on leur a expliqué qu'on avait aussi le centre de soins. Parce que, comme tu le sais, le centre de soins est né du groupe de Fauconnier. Parce qu'on a beaucoup de gens qui nous contactaient suite à des animaux blessés qui n'arrivaient pas à trouver de solution. Et donc, ça a commencé comme ça. Et bah, pour Chantilly, ça a commencé comme ça aussi. Tout a commencé avec la fauconnerie. Et maintenant, on est en partenariat avec le centre de soins également. Donc, c'est la deuxième année révolue avec, comme je te disais tout à l'heure, au niveau des, on va dire, résultats, 1000 l'année dernière, 1300 alors que l'année n'est pas finie. Donc, ça va crescendo. Avec, pour le coup, je commence à vraiment m'inquiéter par rapport à notre temps et notre capacité d'accueil et nos moyens.
C'est plus du bénévolat, là, ça va être du temps complet, quoi.
Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'on ait au moins une personne ou deux personnes qui travaillent sur le site et qui soient payées pour ça. Le problème, c'est que là, on n'en a pas du tout les moyens. Mais il faudrait au moins ça pour pouvoir... Quand on voit déjà ce qu'on arrive à faire maintenant, avec que des bénévoles, donc que des personnes qui sont là et qui donnent de leur temps libre parce qu'ils ont déjà une activité professionnelle, si je pouvais avoir une personne vraiment sur site en permanence ou deux, on aura des résultats qui seraient encore meilleurs.
Frédéric, je suis dans le parc du château de Chantilly où l'association Picardie Faune Sauvage, centre de soins de Boissy-Frénois, procède à un relâcher de hérissons. Comment on peut en faire pour vous aider alors ?
Là, il faudrait qu'on soit subventionné à carrément une autre hauteur que ce qu'on a actuellement, parce que pour l'instant, on est assez peu suivi, mais à ce niveau-là. Mais bon, on va essayer de trouver des solutions et des gens qui nous aident et qui nous suivent. Et puis après, les personnes à mettre sur site, je les ai déjà en fait. Les personnes compétentes, tout ça, je les ai. Mais malheureusement, toutes les personnes qu'on a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est tous 100% bénévoles et on a tous besoin d'un salaire pour pouvoir vivre à côté. Sachant qu'aussi, on en est tous de notre poche sur le centre de soins. Là, il faut bien en être conscient. C'est que je crois qu'on a 6 ou 7 communes qui nous suivent en subvention. On a quelques conventions comme ça avec d'autres établissements comme le château de Chantilly. Mais ça représente, je ne veux pas dire de bêtises, mais on doit être à 10% des dépenses. Donc 90% des dépenses, même pas. On est à même pas 10% des dépenses. Donc 90% des dépenses du centre, dis-toi qu'elles sortent des poches des bénévoles.
Si chaque personne qui suit notre page donnait 3 euros par mois, on serait bien.
Oui, on serait bien par rapport à nos besoins actuels.
Oui. Mais, comme on accueille la quasi-totalité de la faune sauvage, voilà. Donc c'est très vaste. Ça va de l'écureuil jusqu'au chevreuil, du hérisson jusqu'au cygne. On reçoit aussi les chauves-souris, on reçoit des reptiles. Et pendant la... Dans la saison forte du printemps, on reçoit beaucoup de juvéniles tombés du nid, un coup de tempête tombé du nid, un coup de trop chaud, les nids craquent.
Aussi des espèces chassables, par exemple des animaux blessés.
Le chevreuil, on le recueille.
Le chevreuil est chassable.
Bien sûr.
Et le chevreuil, l'année dernière, on en a recueilli une 60aine. Ah oui. Et là, ces 3 derniers jours, on en a eu 2.
Et la chasse n'est pas commencée.
Après, en proportion, on n'a quasiment pas d'animaux qui nous arrivent blessés par la chasse.
Oui. Le chevreuil, c'est principalement les chocs véhicules.
Ah oui, oui.
Ça représente quasiment 30%.
Ouais. Évidemment, les blessures occasionnées par des chasseurs, c'est plutôt rare. En fait.
Oui, c'est assez rare. L'année dernière, je vous dis, on a accueilli 1000 animaux. Il y en a eu 3.
Oui, c'est ça.
3 qui étaient suite à un tir. Donc 2 sur espèces protégées, 1 sur espèces chassables.
D'accord. Donc là, en fait, les animaux qu'on vous amène, c'est des accidents de la circulation.
Alors, il y a... pour un tiers quasiment du choc véhicule, il y a pour un autre tiers de la prédation d'animaux domestiques, donc chien-chat. Et puis le reste, ça va être sécheresse, avec les juvéniles, ce genre de choses. Après, ça, on a des cas de figure parfois qui sont assez aléatoires. Ouais. Et pour le coup, les hérissons sont assez impactés sujet. Par les accidents de tondeuse ou de débroussailleuse.
Ah oui, c'est
un problème. Après, il suffit d'avoir un réflexe tout bête. Hein. Les gens ont tendance à tondre leur jardin en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Faites l'inverse. Il suffit de partir du milieu. Parce que ça laisse une fuite, en fait. Sauf que le dernier coup de tondeuse que vous mettez, vous êtes sûr de l'avoir. Quand vous faites l'inverse, il va toujours aller vers l'extérieur. Avec un petit peu de chance, il pourra passer sous un grillage ou ce genre de choses. Il sera sauvé.
Qu'est-ce qui avait motivé votre idée de créer cette association?
Alors, comme ça se voit,
un petit peu.
On est un peu fauconniers tous. Donc on vit déjà au quotidien avec des animaux sauvages. Et par le fait, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui trouvaient des animaux blessés et qui ne trouvaient pas de structure pour les accueillir. Donc ils essayaient.
La plus forte raison, quand c'était des rapaces, ils s'orientaient vers des fauconniers.
On connaissait déjà, on travaillait déjà plus ou moins avec le centre de soins de Pont-Alfort. On faisait le relais. Et après, les demandes grandissant, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans notre secteur, parce que c'est pas certainement plus simple. Plus facile à gérer avec.
Plus facile aujourd'hui, c'est pas vraiment.
Vous venez d'écouter Christophe, le président de l'association Picardie Faune Sauvage, accompagné de Salomé, la secrétaire. Bonjour. Vous avez appris que vous étiez convoyeuse, c'est ça?
Oui, tout à fait, je suis convoyeuse.
Donc alors, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, votre travail de convoyeuse?
Oui, je peux vous expliquer. En fait, Salomé m'appelle en me disant qu'il y a un animal en détresse chez un particulier en général, puisque tous les convoyages que j'ai faits, ça venait de chez des particuliers. Donc je me déplace à domicile, je récupère l'animal, et ensuite je le conduis au centre Picardie Faune Sauvage. Voilà.
Voilà. Donc c'est un secteur bien particulier pour vous ou vous
Alors,
intervenez
moi,
partout
moi j'habite le Val d'Oise. Donc en général on m'envoie à, on va dire, une trentaine de kilomètres de chez moi maximum. Voilà.
Ouais, donc vous couvrez un secteur qui est pas trop. Ce que disait Salomé tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur le Val d'Oise, quoi.
Il y a, voilà, apparemment je viens pas grand monde. Donc moi je vais en général jusqu'à Senlis, Chantilly, enfin voilà. Le Val d'Oise j'ai encore pas trop fait. Il n'y a encore pas eu trop de demandes, c'est beaucoup des demandes sur l'Oise. Donc voilà, donc je le fais avec plaisir dès que je peux le faire, puisque c'est du bénévolat bien sûr, hein, c'est en dehors de mon temps de travail, et donc dès que je peux rendre service, je le fais.
Comment avez-vous connu l'association alors? Comment ça
En fait, j'ai connu l'association par hasard. J'avais un hérisson malade chez moi. J'ai appelé le vétérinaire de ma ville qui m'a dirigé chez eux. Et en arrivant au centre, Christophe, le président, m'a dit qu'en fait, il cherchait des bénévoles pour convoyer les animaux. Et ben, je me suis portée volontaire. Voilà.
Une belle aventure qui a commencé.
Tout à fait,
voilà.
Tout à fait, je suis très contente de le faire.
Et votre prénom, s'il vous plaît?
Laurence.
Merci Laurence de votre témoignage. Ce reportage a été réalisé dans le parc du château de Chantilly, en compagnie de l'association Picardie Faune Sauvage, centre de soins de Boissy-Frénois, qui procédait à un relâcher d'hérissons dans le parc du château. Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.